Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Qui à Toulouse se souvient encore que le quartier des Carmes, connu aujourd'hui pour son marché, son parking ou bien encore sa station de métro, doit son nom à l'ordre des frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Peu certainement mémoire oublieuse. Et pourtant, dès le début du XIIIe siècle, une multitude de frères, Grand Carme et plus tard Carme des Chaussées, vivent et prient là, dans l'actuelle rue Féritra, qu'ils quittent en 1264 pour la rue Jouxte-Aigue, puis, achetant des terrains alentour, élèvent sur l'emplacement de l'actuel marché, église et nouveau couvent. Ils y resteront jusqu'en 1791. Après la Révolution, la présence des Carmes à Toulouse subit une éclipse de près de deux siècles. Ils sont installés aujourd'hui au 33 de l'avenue Jean-Rieux, ancien couvent des frères Capucins, fondé par le père Marie-Antoine, le saint de Toulouse dont nous avons suivi les pas la semaine dernière à Notre-Dame-du-Pêche. Aujourd'hui, en compagnie du frère Jean-Fabrice, je vous invite à entrer dans ce couvent où repose le père Marie-Antoine.
Ça fait des siècles, effectivement, que nous sommes là, mais avec des intermittences aussi. Donc les premiers Carmes, ce sont les grands Carmes, puisqu'il y a deux branches du Carmel. Hein. Les premiers arrivés, ce sont les grands Carmes au cours du Moyen-Âge, qui sont arrivés dès la moitié du XIIIe siècle à Toulouse, et se sont implantés à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui les Carmes, où il ne reste plus qu'un parking. C'est parce qu'au XIXe siècle, on a démoli leur église qui commençait à être vétuste et qui était un monument historique tout à fait remarquable, avec une chapelle du XVIIIe siècle dédiée à Notre-Dame du Mont Carmel, en particulier, qu'on allait visiter depuis la France entière. Et j'en parlais l'autre jour avec l'ancien directeur du musée Saint-Raymond, qui m'a dit que c'était une perte irréparable que de démolir. Et puis, au XVIIe siècle, lorsque les Carmes Deschaux, là, issus de la réforme de Sainte-Thérèse d'Avila, viennent à Toulouse, ils s'installent à ce qui est actuellement le Jardin des Plantes. Leur église, c'est Saint-Michel-Saint-Exupère, et leur couvent est maintenant occupé, en partie par le Théâtre Sorano, et puis par le muséum d'histoire naturelle, voilà, c'est ça. Donc, c'était en dehors des murs, donc ils avaient un grand terrain. À l'époque, c'était du terrain vague, pratiquement, donc ils avaient ce grand terrain-là, et ils vont y rester jusqu'en 1791. Donc, effectivement, ça fait une implantation ancienne à Toulouse. Et puis, donc, après la Révolution, il y a une tentative pour se réinstaller à Toulouse. Bon, comme tous les ordres religieux masculins, ils se réimplantent en France dans les années 1840. Et cela se fait à Bordeaux. À Bordeaux, en 1840, les Carmes reviennent et n'essaieront de s'installer à Toulouse qu'en 1872. Bon, ils ont tenté auparavant, mais ça a toujours été un petit peu difficile parce que les gouvernements changeaient rapidement et étaient plus ou moins favorables ou opposés. Et donc en 1872, ils s'installent dans le quartier de Saint-Cyprien, qui est victime des inondations en 1875, seulement trois ans après, et le couvent s'écroule dans la crue de la Garonne. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-ci que les frères sont recueillis par le père Marie-Antoine, donc chez les Capucins. Et puis ensuite, c'est la Troisième République, impossibilité de se réinstaller jusque après la Première Guerre mondiale. Et cette réinstallation se fera à Avon, un peu au couvent du Brousset que nous avions déjà auparavant et que une famille amie avait racheté pour nous le restituer. Et en fait, les premiers essais au XXe siècle pour se réinstaller à Toulouse datent des années 60. Début des années 60, une petite fraternité s'installe auprès des Dominicains et les jeunes frères vont suivre des cours chez les Dominicains. Et puis, la province connaît une crise après 1968, pendant une dizaine d'années, c'est assez difficile. Donc, là aussi, de nouveau, cette implantation disparaît. Et elle, nous allons nous réinstaller à Toulouse. Alors, cette fois-ci, de manière continue jusqu'à maintenant, en 1986. Entre-temps, nous avons eu beaucoup de vocations dès le début des années 80. Notre province a vraiment décollé à ce moment-là. Et il a fallu très rapidement trouver un endroit pour assurer la formation intellectuelle des jeunes frères qui arrivaient. Au début, on est allé à Fribourg, en Suisse, où il y avait un couvent qui dépendait de la maison généraliste des Carmes. Mais ce couvent est tout petit. Et il a fallu trouver très vite. Donc, le provincial de l'époque s'est mis à chercher. Et on a trouvé auprès des jésuites de la rue Montplaisir, qui nous vendaient ce bâtiment de leur résidence de la rue Montplaisir, qui n'était pas très très vaste. On pouvait loger une petite vingtaine de frères seulement. Et ça a suffi pour commencer. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça ne suffirait pas. De sorte qu'on a de nouveau cherché un couvent qui serait éventuellement plus grand et on n'a pas trouvé. Donc on a acheté un deuxième couvent à peu près de la même taille, peut-être même un peu plus petit, qui était rue d'Aquitaine dans le quartier du Raisin, vers les Minimes. Et pendant quelques années, nous avons fonctionné avec ces deux maisons pour loger d'une part les étudiants en philosophie, d'autre part les étudiants en théologie et leurs formateurs avec eux. Et puis, en 1999, les Pères Capucins ont décidé de vendre la maison où nous sommes en ce moment, donc couvent historique fondé par le Père Marie-Antoine de Lavaur. Et nous avons pu regrouper ces deux communautés sur un seul site. Et donc, depuis 15 ans maintenant, nous sommes présents à l'avenue Jean Rieu.
Nous venons de pénétrer à l'intérieur du couvent. Nous sommes à présent dans le couloir qui dessert la chapelle, des parloirs et des pièces ouvertes aux visiteurs. Et nous nous apprêtons à franchir la clôture.
Donc on peut passer derrière.
Alors on peut rentrer dans la clôture ?
Voilà, la clôture.
C'est un privilège aujourd'hui de pénétrer dans la clôture.
Oui, effectivement. Et pour cela, j'ai demandé la permission à notre père provincial. Voilà, qui me l'a accordé sans difficulté, mais c'est effectivement au supérieur majeur qu'il faut demander cette autorisation de pénétrer dans la clôture. Donc nous pouvons voir cette bibliothèque. Donc ça fait grand, hein, sur des rayonnages mobiles pour ce rez-de-chaussée du moins, puisque on a élevé trois niveaux de bibliothèque dans ce cœur des moines. Donc c'est une bibliothèque assez importante pour une communauté religieuse parce que comme nous avons nos étudiants en philosophie et en théologie, nous avons quand même besoin d'un bon fond de livres. Donc il y a peut-être 75 000 volumes dans cette bibliothèque.
Ah oui, c'est impressionnant, oui.
Et vous êtes tenu au silence dans la journée ?
Un silence relatif, pas absolu. Notre règle demande que le soir, après compli, on observe un silence strict. Dans la journée, prudemment, la règle se contente de dire, sans que le silence soit absolu, on évitera avec grand soin de parler beaucoup.
Pas de parole inutile.
Pas de parole inutile, voilà. On évite de discuter dans les couloirs, ça c'est la salle des chantres. La pièce où nous mettons les journaux et magazines que nous recevons. Il y a aussi des choses de détente, hein, parfois, voilà.
C'est pas interdit. Hein.
Mais il y a, voilà, il y a la croix et puis quelques revues. Je ne sais pas si on peut accéder à l'Institut Jean de la Croix. Alors, le bureau de l'Institut Jean de la Croix... Alors c'est dommage que le père Jean-Emmanuel est en ministère auprès des Carmélites de Muret ce matin. C'est lui qui s'occupe de cet institut de spiritualité qui a pour mission de diffuser, alors sur un plan plus universitaire, la spiritualité du Carmel.
Donc il fait des publications.
Alors il y a des publications, il y a l'organisation d'un certificat de spiritualité en lien avec l'Institut catholique, qui donne donc un diplôme en spiritualité, et qui les cours sont donnés entièrement par correspondance au moyen de l'Internet.
D'accord.
Mais les étudiants viennent valider ici au couvent en fin d'année. On organise aussi dans le cadre de l'Institut des cycles de conférences et puis une université d'été, c'est-à-dire ça fait une session d'une semaine qui se tient à notre couvent du Brousset, donc en Gironde. À droite, nous accédons alors à l'aile qui fait face à celle de l'hôtellerie, et cette aile donne sur le réfectoire. Là, donc il y a ce réfectoire qui n'est pas encore rangé depuis le petit déjeuner ce matin.
Un réfectoire très très clair, hein. C'est vrai qu'il y a, des grandes baies.
Il y a des grandes baies,
oui. Et dans le couloir également, puisque ça donne sur le jardin.
Voilà.
Et vous avez gardé des murs entre briques et galets.
Briques et galets, oui, c'était très joli. Au bout, la salle de récréation. Après le repas, nous avons toujours une récréation en commun. Voilà, nous retrouvons hier convivial à discuter gentiment, puisque les repas sont pris en silence. Il y a une lecture qui est faite pendant la durée du repas.
Et tout s'organise, enfin les bâtiments sont organisés autour du jardin, en aile, enfin pratiquement.
Oui, c'est ça, le jardin est un aile, enfin il se prolonge bien au-delà, encore il y a le petit bois, on ira faire un tour dehors peut-être.
Ah, bien sûr.
On a donc trois ailes et pas quatre comme dans les cloîtres ordinaires, qui reprennent le dessin des villas romaines, mais en ajoutant du sens, celui d'une certaine intériorité, puisque le regard va être porté vers l'intérieur. Souvent dans les cloîtres classiques, on voit une fontaine dans le milieu qui indique le jaillissement de l'Esprit Saint si on se tient à l'intérieur. Donc cette orientation vers l'intérieur est en partie préservée pour notre maison.
Et ici, vous êtes une vingtaine à peu près.
C'est ça, oui. Donc, une moitié de frères étudiants et une moitié de...
Confirmé, on va dire. Comment dit-on ?
Alors, nous disons les prophètes solennels, voilà. Parce que nous avons fait notre profession perpétuelle et solennelle. Au-dessus du réfectoire, nous avons les cellules des frères sur deux niveaux.
Oui.
Les prophètes solennels au premier niveau, et au-dessus, à l'identique, on a une dizaine de cellules où sont logés les frères étudiants. Alors ici, nous trouvons... Alors nous sommes juste sous les voûtes de l'ancien chœur des frères, au-dessus de la bibliothèque. Il y a encore un niveau intermédiaire que je vous montrerai en redescendant. Ça nous sert de salle du chapitre, cette partie-là. Et l'autre sert assez rarement, mais bon, lorsque on fait des projections, qui peuvent être soit des films de détente, soit aussi des documentaires.
Et vous êtes vraiment dans un havre de paix, et puis... complètement en lien avec l'extérieur. Là, par exemple, s'il y a un immense hublot et on voit des bâtiments à l'extérieur, on voit la vie, on voit le monde.
Oui, c'est le collège du Caouzou. Donc la paix est relative aux heures de récréation. Hein, Voilà, donc au milieu des cellules, il y a encore un petit oratoire qui est ici. Il est bon d'avoir ce petit lieu qui va servir... Lorsqu'on circule dans le couloir, on va s'arrêter voir Jésus. Voilà, et ça nous fait du bien.
De prendre le temps de la rencontre.
Oui.
Ne serait-ce que quelques instants.
Voilà. Ne serait-ce que quelques instants, en effet. En poursuivant, nous avons une salle qui est réservée aux ordinateurs. Alors, les frères ont des ordinateurs dans leur cellule, mais les ordinateurs ne peuvent pas recevoir l'Internet dans les cellules. Donc, c'est à partir de cette pièce-là qu'on peut se connecter à l'extérieur. La survenue de l'Internet nous a obligés à une réflexion par rapport à notre clôture, puisque vous soulignez tout à l'heure que c'était un privilège de pouvoir pénétrer en clôture. C'est une nécessité pour nous, pour préserver notre intimité et le contact avec le Seigneur, de mettre une certaine limite. Mais si nous-mêmes, nous franchissons cette limite en nous connectant par l'Internet avec l'immense monde extérieur, ce n'est pas la peine d'avoir une clôture. D'où ce frein que nous avons mis, pas d'Internet dans les cellules, mais uniquement dans ce lieu communautaire qui est ici. Voilà. Alors, la cellule du Père Marie-Antoine a été conservée à peu près. Voilà, la fenêtre n'est pas d'origine, hein, elle a mis double vitrage partout. Mais c'était bien, voilà, sa cellule. Le bureau n'est pas d'origine. Seul, je crois, ce fauteuil qui a été racheté lors d'une vente aux enchères du mobilier du couvent après la dispersion des Capucins et la mort du Père Marie-Antoine. Vous savez qu'il était resté ici, seul, comme un roc, après l'expulsion des frères. Donc lorsque le mobilier a été dispersé, ça a été racheté par une famille amie qui l'a redonné aux Capucins, et puis ça nous a été remis par un frère Capucin, voilà, ce souvenir du père Marie-Antoine. Voilà, donc ce sont de toutes petites cellules, comme vous voyez, et celles que nous avons aménagées et où nous habitons sont quand même un peu plus vastes.
Pour vous ici, c'est un lieu de mémoire, c'est un... Qu'est-ce que vous diriez de ce lieu, de cette cellule ? Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, ça ?
Oui, c'est effectivement un lieu de mémoire. C'est un lieu qui nous enracine dans la ville de Toulouse, dans l'histoire de Toulouse aussi, quand on voit l'importance qu'a eu ce personnage du Père Marie-Antoine dans l'église de Toulouse à la fin du XIXe siècle. C'est un personnage vraiment majeur dont nous espérons qu'il sera prochainement déclaré vénérable. Alors là, on va grimper dans la partie supérieure de la bibliothèque en prenant le chemin du clocher. Alors ce clocher est plat parce qu'il avait été prévu d'y installer une statue de la Vierge. Et lorsque les Capucins ont reçu cette statue, elle pesait plusieurs tonnes, ils ont eu peur de l'installer sur le clocher. Alors ils y ont renoncé. Et donc là, nous trouvons la réserve de la bibliothèque qui est vaste encore.
C'est impressionnant.
Alors, ce sont les livres moins souvent consultés.
Ils sont tous classés, catalogués.
Oui. Catalogués, hélas, non. Ça, c'est la difficulté de communautés comme la nôtre, qui sont des communautés variables, si je puis dire. Nous circulons tous. Moi, ça fait quelques mois que je suis à Toulouse seulement. Auparavant, j'étais au couvent de Montpellier. Et donc, lorsque nous entreprenons un travail de longue haleine comme le fichage d'une bibliothèque, alors il y a un frère zélé qui s'y met, et puis il est nommé ailleurs, et ça tombe. Alors quelqu'un veut le reprendre, et puis on s'aperçoit que les logiciels ont beaucoup évolué depuis, donc il faut reprendre à zéro, et de sorte que nous avons beaucoup de mal à mettre en place les choses. Alors, la dernière version a commencé, effectivement. C'était un ami de la communauté qui nous a fait ça bénévolement. A priori, c'est plus stable. Les bénévoles sont finalement plus stables que les frères eux-mêmes par rapport à la communauté.
C'est eux, les bénévoles, qui vous enracinent ici à Toulouse.
Oui, c'est vrai que les frères passent, les bénévoles demeurent. Et...
Donc là, nous voilà dans le jardin.
Voilà, ça nous fait un vaste jardin avec des rosiers qui n'ont pas cessé de fleurir depuis le mois de mai.
Vous avez des petites chèvres.
Alors, nous avons deux chèvres naines. Voilà. Il y a aussi une poule qui se promène de temps en temps. Voilà.
Je vous souhaite la bienvenue.
Oui, oui.
Si on leur apportait un peu de cornflakes, elles apprécieraient encore plus. Mais enfin...
Elles ont un pelage magnifique. Hein. Je oui. pense qu'elles sont bien dorlotées. Et puis elles vous connaissent. Hein. Mm-hmm.
Avant qu'on installe la clôture autour d'elles, elles venaient s'installer sur les fenêtres du réfectoire. Alors, quand elles entendaient sonner l'Angélus, elles savaient que les frères viendraient au réfectoire aussi. Ah, oui. Et donc, elles accouraient aux fenêtres du réfectoire pour voir ce qu'on faisait s'approcher de nous. Donc, c'était des... Voilà, des chefs qui écoutaient l'Angélus. Et puis, comme elles étaient un peu trop gloutonnes de nos fleurs de rosier, on a décidé de les enfermer dans cet enclos électrifié. Voilà, il y a un petit carré de potager aussi.
Oui, que vous travaillez, que les frères travaillent.
Oui, c'est destiné à une saine occupation pour les frères. Ça les sort de leurs études. Hein. Donc, l'une des missions de la communauté, la mission principale reste quand même les étudiants. Hein. Mais après ça, il y a cette activité intellectuelle qui d'ailleurs est associée aux études. Je vous ai parlé un petit peu de l'Institut Jean de la Croix, mais il y a aussi les éditions du Carmel qui présentent un apostolat intellectuel de la communauté. Au début, il y a cette petite librairie. Et voici donc le président directeur général de l'établissement.
Oh, alors je suis très honorée.
Bonjour madame, frère
Marie
Laurent.
Bonjour, Marie-Pierre Fabrec.
Très bien, écoutez, bienvenue aux éditions du Carmel.
Alors là, par exemple, qu'est-ce que vous proposez au public qui vient ici, au lecteur par
Alors ici, ah, bah, oui. qui vient, bah, on leur propose des petits livres pour aider leur vie de prière. Bon, par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est « Prier à l'école du Carmel ». C'est écrit par une carmélite anglaise. C'est le livre de sa vie, hein. C'est le seul livre qu'elle a jamais écrit. Elle a initié ses sœurs pendant plusieurs dizaines d'années à comment faire oraison, etc. Mmh. Et donc elle a écrit un petit livre qui est vraiment très joli et bah, qui donne à la fois, qui explique ce que c'est que l'oraison à la manière du Carmel. Bon, c'est un peu témoignage aussi, hein, comment elle a appris. Et puis, elle donne les petits conseils qui vont bien, hein, comment je fais oraison à la manière du Carmel et tout ça. Tout ça avec beaucoup d'humour anglais, c'est assez délicieux.
Voilà, donc c'est oui, parce que tout à l'heure, je demandais à frère Philippe si faire oraison, c'était quelque chose qui s'apprenait.
Oui, alors oui, bah, c'est clair. Hein. Oui. C'est clair. Mais alors, la dimension, le fait que ça s'apprend... En fait, on apprend à accueillir la grâce de Dieu. On ne peut pas prier, on ne peut pas faire oraison, ne serait-ce que 2 secondes, si la grâce de Dieu n'est pas à l'œuvre en nous. Alors, rassurons-nous, ça tombe, elle est toujours là. Elle nous est toujours offerte. Elle est toujours offerte. Et alors, donc, de cette manière, faire oraison, c'est quoi ? C'est s'ouvrir à la grâce de Dieu. Et puis après, la grâce de Dieu, elle fait en nous ce qu'elle veut. Et donc, bah, faire... on va être ambitieux d'emblée, faire 1 heure d'oraison, c'est s'ouvrir à la grâce de Dieu pendant 1 heure. Ce qui va nécessiter un effort parfois de toutes les secondes. Seigneur, donne-moi ta grâce qu'on va répéter en boucle pendant 1 heure. Voilà. Oui. Donc voilà, les éditions du Carmel. Donc il y a à la fois sur la vie de prière, bon évidemment toujours un peu teinté de Carmel. Et après évidemment sur les saints du Carmel, bah, là vous voyez, c'est un autre livre là qui est le grand best-seller du moment. C'est « Seul Dieu suffit ». Petite retraite intérieure avec Sainte Thérèse d'Avila. Vous voyez, c'est aussi un petit livre, hein, il fait 128 pages. Et là, on l'a fait pour l'année du centenaire, le 500e anniversaire de naissance de Thérèse. Et donc là, c'est le frère Philippe qui est ici à la communauté de Toulouse qui a écrit ça. C'est découvrir Thérèse sous forme, Thérèse d'Avila, sous forme d'une petite retraite de 9 jours. Avec voilà, tous les matins, vous avez 2 fois par jour un petit enseignement, vous voyez, qui fait 3 pages. Ensuite, vous avez 2 pages de texte de Thérèse à méditer, puis une petite démarche qui vous est proposée. Mmh. La mission des éditions du Carmel, c'est vraiment de permettre au public francophone de se nourrir des richesses, hein, des trésors du Carmel. Donc, non seulement on édite nos propres livres, donc ça, on fait 12 de nouveautés par an, puis on a 2 revues trimestrielles. Et puis ensuite, on propose aussi un service de librairie par correspondance où on a tout ce qui concerne le Carmel en français. Voilà, vous avez par exemple, vous voyez, Petite vie de Bernard Seuzet, Petite vie de Thérèse d'Avila. Bon, c'est pas nous qui sommes les éditeurs. Hein. Et puis, on a aussi là, au moins une sélection de CD. Là, vous avez un très, très beau CD fait par les Carmélites de Hongrie. Et puis, ce film, alors là... qui est absolument génial. Hein. C'est une série produite en 1983 par la télé espagnole. C'est La vie de Thérèse d'Avila en 8 épisodes. Et avec Concha Velasco comme actrice principale, qui est la Brigitte Bardot espagnole, hein, que tout espagnol connaît par cœur. Et c'est vraiment fantastique, hein. C'est vraiment très bon. Donc là, vous voyez, on commercialise ça aussi pour permettre, c'est un très bon moyen de découvrir Thérèse.
Et votre rôle, vous, ici, là, vous êtes ici tous les jours ?
Oui, alors je suis ici tous les jours quand je suis au couvent de Toulouse, parce qu'après, comme j'ai mon prieur qui sourit, tout bon carme, je sors aussi du couvent pour aller donner des sessions, alors dans mon cas surtout sur Thérèse d'Avila. Voilà, donc quand je suis en dehors du couvent, je continue à travailler aux éditions par les moyens modernes, hein, donc Internet, le portable, et voilà. Et puis quand je suis ici au couvent, ça c'est sûr que... Je passe le plus clair de mes journées ici. Quoi.
Il nous faut à présent quitter ce lieu de plénitude, sûr d'avoir découvert comment, au milieu de l'instabilité du monde, le Carmel ancre le bonheur dans les profondeurs de Dieu.